Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes sont-ils le symptôme d'une démocratie malade ou d'une démocratie au contraire en rémission? Invité à partir de 1955, le philosophe Frédéric Worms, auteur des maladies de la démocratie et d'une philosophie face à la violence. Il nous rejoindra donc dans la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, homme de Paris et de défi, à 31 ans et après avoir déjà adapté les particules élémentaires de Michel Houellebecq et 2666 de Roberto Bolaño, grand prix du syndicat de la critique, il s'est attelé à monter trois romans de Don DeLillo, le pape de la littérature américaine, où il interroge la radicalité, le pouvoir de la littérature et la mise en fiction du monde, à voir en ce moment aux ateliers Berthier qui est attaché au Théâtre de l'Odéon, Théâtre de l'Europe, et le tout dans le cadre du Festival de l'Automne. Le metteur en scène Julien Gosselin est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture.
La grande table. Olivia Gesbert.
Savons-nous ce que cela signifie ? Cela signifie que la valeur moyenne du Dow Jones est en chute libre, en baisse, en baisse, en baisse. La Deutsche Bank en baisse. Londres, l'indice du FTSE 100, en baisse. Le Hang Seng à Hong Kong, pétrole brut, fonds obligataire islamique, en baisse, en baisse, en baisse. Le nom à retenir est Dubaï. Redis-le, Dubaï.
Première partie, joueur, un couple au bord de la rupture à l'image d'une Amérique déboussolée, ils vont basculer dans la radicalité. Deuxième partie, Mao, 2, la solitude dans la multitude, un écrivain reclus, son éditeur, une photographe, un poète pris en otage, le rôle des images, le sens de l'écriture. Troisième partie, les noms, d'Athènes au Proche-Orient, ils mesurent les risques et enquêtent sur une secte. Bonjour Julien Gosselin.
Bonjour.
6 romans en 10 ans, à ses débuts, Don DeLillo écrivait beaucoup, il allait vite, avant de lever le pied avec non au début des années 80. Et vous, 6 pièces depuis 2013, dont cette trilogie de 10 heures, vous êtes un homme pressé ?
Je ne sais pas. J'ai pas l'impression de... Disons que avant de faire un projet, j'ai toujours l'impression de n'avoir rien fait depuis très longtemps. Et après avoir fait un projet, j'ai l'impression d'être très fatigué et de faire trop de choses. Donc ça dépend des moments. Mais je crois pas être en surproduction. J'ai l'impression de rester dans quelque chose de relativement raisonnable, de faire un gros projet tous les 2 ans, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs de beaucoup de metteurs en scène en Europe qui par exemple peuvent faire 3 à 4 projets par an. Moi, je serais incapable de faire ça.
Donc accélération, décélération, mais aussi ascension. Vous aimez bien vous attaquer à des textes et des auteurs réputés inadaptables, des monuments de la littérature, gravés des sommets littéraires. Houellebecq, Bolaño, aujourd'hui Don DeLillo et demain la Bible.
Non. Demain, je sais pas. Justement, en ce moment, je me pose la question à ce sujet. C'est-à-dire que je me rends compte que des thématiques, disons que je travaille pas pour des thématiques, mais il se trouve que si je recoupe un petit peu les écrivains sur lesquels j'ai travaillé, forcément la question de la littérature et la question aussi du mal ou de la violence sont posées à chaque fois. Et je me rends compte que j'en ai parlé, disons, avec 3 auteurs immenses. Donc je suis un peu inquiet de savoir si je vais trouver quelqu'un qui peut en parler. Ou alors je parle d'autre chose, mais j'en suis pas totalement capable encore. Je crois que j'ai besoin de parler de ça. Je sais pas si je vais trouver un auteur à la hauteur.
La violence, vous en parlez avec eux, Julien Gosselin, vous venez de le dire. Cette violence, elle vous questionne, elle vous fascine peut-être d'une certaine manière, sinon vous entretiendriez pas cette discussion, ce dialogue avec ces auteurs. Est-ce qu'elle reste un mystère après cette discussion que vous avez eue avec ces 3 écrivains?
Oui. C'est typiquement la question du mystère de la violence que j'interroge, la question de la violence, on va dire médiatique, réelle, quotidienne, même si c'est une chose qui en ce moment pour le coup est une chose qui m'effare et m'intéresse énormément. Le théâtre a cela d'intéressant qui peut à un moment sortir du champ de la quotidienneté et du champ médiatique, et donc qui peut interroger la violence comme un mystère, qui peut interroger la violence en la nommant le mal et non pas un coup de poing ou un coup de feu. Moi, je ne fais qu'interroger. Vous avez dit fascination, il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là. Disons que ce que je questionne comme étant le mal, je ne le comprends pas. Et je ne le comprends toujours pas. Le mal comme étant une donnée, on va dire, fondatrice, présente depuis toujours à l'intérieur de l'humanité, une chose que je ne comprends pas. Il me faut des auteurs immenses, non pas pour répondre à cette question, mais pour continuer à la questionner.
Mais est-ce que quand on questionne le mal, on ne questionne pas aussi directement le bien ? Est-ce que ça fait forcément de vous et des auteurs qui en traitent, des auteurs sombres, pessimistes ? Est-ce que dans ce questionnement, cette réflexion, ce cheminement, il n'y a pas aussi une manière de s'interroger sur ce qui fait monde encore, sur ce qui fait corps aujourd'hui ?
Oui, c'est certainement le but caché, peut-être. Je suis toujours un peu désappointé quand j'entends des gens se plaindre du fait que mes spectacles soient, pour le coup, pessimistes, disent-ils. Moi, je suis absolument pas d'accord, évidemment. Moi, je crois pas que le théâtre est là simplement pour tenir un discours positif, humaniste, rassembleur, qui serait uniquement là pour, disons, nous donner le sourire, ou nous faire plaisir. Je pense que le théâtre est un outil de blessure, y compris pour le spectateur, et que c'est à cet endroit de la blessure que se trouve quelque chose qui peut même aller jusqu'à la réconciliation et à quelque chose d'intéressant. Donc oui, nécessairement, quand dans Donne de Lillo, on parle du fait que on ne comprend plus le monde dans lequel on vit, évidemment qu'il y a une aspiration, quelle aspiration de la littérature, à pouvoir le comprendre et à pouvoir l'imaginer. Donc dès qu'on parle du mal, nécessairement, on est essaye d'imaginer la possibilité du bien. Mais cette chose-là, je ne pense pas être un homme politique et je ne pense pas être un bienfaiteur. Je pense être un artiste qui questionne des choses évidemment douloureuses.
La pièce se termine sur ces mots, couperet de Donne de Lillo. C'est pire qu'un affreux cauchemar. C'est le cauchemar des vraies choses, le prodige raté du monde. Vous avez appris à parler, le Donne de Lillo, langage, ouais. Quand il dit ça, est-ce que ça montre un homme inquiet, un écrivain réaliste, pessimiste pour vous ?
Il se trouve que c'est la phrase, peut-être une des phrases les plus bouleversantes du spectacle. Cette phrase est projetée dans le spectacle. Il se trouve, c'est drôle parce que le jour de la première à Avignon, on n'était absolument pas prêts, et j'ai lu ce passage-là aux acteurs. Je ne le comprends pas. Il est écrit dans le texte, il est écrit par un enfant qui s'appelle Tap, qui est le fils du héros des noms, qui écrit un roman sur ce qui s'appelle la glossolalie, c'est-à-dire l'usage que font par exemple les prêcheurs américains de la transe corporelle liée à la langue, une langue qui devient incompréhensible. En anglais on dit speaking in tongues, ce qui veut dire parler en langue, en français, qui ne se dit pas d'ailleurs. Et cet enfant parle d'une Amérique perdue, d'une Amérique de la prairie, dit-il, et de ces gens fous qui se tournent vers Dieu. Et cet enfant n'arrive pas lui-même à se tourner vers Dieu. Il est dans l'incapacité de mettre son propre corps en transe. Et dit-il, voyant ces gens rentrer en transe et parler des langues inconnues, il parle du prodige raté du monde, du cauchemar des vraies choses. Et je trouve que, en tout cas moi, ce qui me bouleverse à l'intérieur de ça, c'est ce regard-là qui est le mien. Aussi, qui est le regard de cet enfant, qui voit l'agitation du monde, qui est aussi le regard de Donne de Lillo, et qui ne le comprend pas comme uniquement une beauté, qui d'ailleurs ne le comprend pas tout court, qui voit les gens s'agiter, et qui est empli de douleur face à cette agitation qu'il ne peut pas saisir. C'est le travail du romancier, et peut-être c'est un peu mon travail aussi.
C'est un peu une coquetterie des grands auteurs de dire que leurs livres sont intraduisibles, mais c'est pourtant ce qu'a fait Donne de Lillo et il s'en explique.
Tout ce que j'écris et une bonne part de ce que je lis me rappelle le pouvoir de la langue. Alors moi je connais l'anglais. Et si je connaissais d'autres langues, je ne suis pas sûr que je pourrais lire mes écrits en traduction dans ces autres langues. En effet, le travail que je fais sur les phrases revêt certains aspects qui, à mon avis, sont intraduisibles. Le nombre de syllabes d'un mot, j'attache de l'importance à cela, moi, parfois. Le nombre de mots d'une phrase. Il y a une épreuve permanente que j'impose à la langue pour y arriver à trouver l'harmonie.
Alors, comment ne pas trahir? Ici, c'est Dawn DeLillo en français sur votre scène, Julien Gosselin. Ce que la traduction enlève à la musicalité des phrases, est-ce que vous y avez pallié, vous, avec les mots du théâtre, avec les armes du théâtre, les images, les sons, la partition de l'espace, le jeu des acteurs? Est-ce que vous avez tenté de compenser avec vos moyens à vous?
Déjà, il faut dire que la traduction est très belle. La traduction de Marianne Véron des trois textes est vraiment magnifique. Donc, on peut lui rendre hommage quand même, parce que ce qui est intéressant chez Dawn DeLillo, c'est qu'il ne considère pas la question du sens comme étant l'unique question de la langue, des mots, des noms, comme il les appelle, ou de la littérature. Mmh. Il questionne aussi l'architecture pure que produisent les mots sur une page, leur forme. Ce qui est d'ailleurs la question du livre, les noms. Évidemment, ça, on ne peut pas le rendre, mais on projette beaucoup de textes dans le spectacle, le spectateur peut lire à plusieurs moments, et moi je crois que on perd quelque chose, mais que certains mots, certains sens des mots, certaines architectures des mots, même traduits en français, ont une puissance exceptionnelle, même ayant passé ce passage de trahison. Donc oui, il y a une perte, mais je crois que quand une traduction est quand même plutôt bien faite, on arrive à préserver quelque chose d'une essence profonde. Quoi qu'en dise l'auteur, qui sont généralement les moins bons juges.
Voilà, mais c'est ce que je vous disais, c'est aussi une coquetterie. Avec Joueur, avec Mao 2, avec Non, ces trois romans de Dawn DeLillo, du coup, comment vous avez procédé? Est-ce que vous avez cherché dans sa prose, parce que ce ne sont pas des textes de théâtre, dans cette prose complexe, foisonnante, des moments, des espaces de théâtralité?
Non, ça c'était très facile. C'est peut-être l'adaptation la plus... Alors il y a eu des grands moments de difficulté, mais c'était une des adaptations les plus évidentes. Ne serait-ce que parce que les trois quarts des romans sont dialogués. En fait, il y a très peu d'auteurs qui font ça. Et d'ailleurs, généralement, les auteurs qui font ça sont adaptés au théâtre. Il se trouve que Dostoïevski, par exemple, si on le lit, on se rend compte qu'en fait, la moitié des romans, même peut-être plus parfois, sont du dialogue. Donc du coup, l'adaptation au théâtre se fait de manière évidente. Et il se trouve que Dawn DeLillo, une des grandes difficultés de traduction, pour le coup, mais aussi de compréhension des livres, c'est son aspect, on va dire, qu'on a appelé postmoderne, mais c'est pas très juste de le nommer comme ça. C'est l'idée que il fait des dialogues, mais parfois, on apprend quatre pages après qui parlait dans le dialogue. Nous, au théâtre, évidemment, cette chose-là est brisée, parce que quand un acteur parle, on sait qui parle. Mais, disons... la transposition au théâtre a été une des choses assez simples parce que l'incarnation en fait se fait immédiatement. Il se trouve aussi que c'est un écrivain américain et que même si je suis pas sûr qu'on puisse à chaque fois aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui parler de grandes traditions littéraires, mais enfin toujours est-il qu'il y a une tradition américaine qui est celle des personnages, qui est celle de l'incarnation.
Voilà, il se trouve aussi que c'est un écrivain qui porte un soin tout particulier à ses personnages, à leur attitude physique, à leur psychologie. Écoutez-le.
Je pense au personnage. Et puis, une fois qu'un personnage commence à être façonné dans mon esprit, j'ai une image de lui, une image générale de la personne. Je ne vois pas les détails de cet homme ou de cette femme, son visage, hein, mais j'ai une idée générale de sa physionomie. Et c'est important parce que je suis un écrivain visuel, en fait. Je crée des scènes où les gens sont dans des pièces ou alors des scènes où les gens marchent dans la rue, où ils sont dans une voiture pour toute une journée, comme dans Cosmopolis, hein, voilà, que ce soit le film ou le livre. Et c'est ça dont j'ai besoin. Je suis un écrivain de personnes physiques, pas seulement d'idées dans ma tête, pas seulement de personnages qui existent dans ma tête, des personnages que je vois.
Du coup, ça vous allait bien, Julien Gosselin, porter une attention toute particulière aux personnages
et donc aux comédiens? Oui et non, parce que c'est une chose que, en tant que lecteur, qui m'intéresse généralement pas du tout. Moi, ce qui me touche dans Dawn DeLillo, c'est des descriptions continues de paysages d'une île grecque, par exemple. Ça me bouleverse quand il parle du vent, quand il parle de la mer. Voilà. Moi, ce qui me touche en première lecture, c'est ça. Il se trouve que je suis toujours rattrapé, ça l'a toujours été, par les acteurs qui, eux, finissent très rapidement par s'intéresser aux personnages et qui me prouvent dans leur travail que c'est une question quand même pertinente et intéressante de la littérature. C'était pareil d'ailleurs, c'était très drôle pour moi avec Houellebecq qui est pensé d'ailleurs complètement à tort comme un écrivain idéologique, disons, et qui en fait est un pur écrivain de personnages. Et les acteurs finissent toujours par gagner. Et ça c'est quand même une grande joie pour moi. J'ai beau penser tout ce que je veux, à la fin, les acteurs et les personnages gagnent.
Alors c'est important, la dernière pierre, on l'a évoqué avec ces derniers mots de la pièce, le cauchemar des vraies choses, le prodige raté du monde. On peut revenir peut-être à la première pierre. Don DeLillo dit que tous ses romans commencent toujours par une image. Quel a été votre point de départ à vous ?
Très simplement, le début de Joueur s'appelle Le Film. C'est le premier sous-titre, le premier chapitre. Donc il y a évidemment, le spectacle est très majoritairement filmé en direct, et il y a évidemment un rapport, disons, immédiat qui est celui du cinéma. Je l'ai pas pris. Moi, je travaille, disons, je travaille avec une dramaturgie qui est un peu hachée. Je suis pas quelqu'un de très sérieux, disons, de ce point de vue-là. J'arrive avec beaucoup d'armes, j'arrive avec beaucoup de collaborateurs, et on essaye de trouver des pistes. Mais il y a quelque chose qui ne se fait pas d'un point de vue, disons, c'est pas tout seul chez moi que je sais que ça va être filmé, par exemple. Il se trouve que il y a quelque chose à l'intérieur de la nécessité de la langue, de la nécessité de la pensée chez Don DeLillo, qui est cette question du cinéma qui est constante dans son œuvre, qui a créé cet objet-là. Mais oui, le point de départ, c'était le film. C'était ça.
Et son écriture est très visuelle, et il dit d'ailleurs souvent qu'il aurait pu faire du cinéma s'il était né plus tôt. Il a aussi une passion pour ce médium, des images, des écrans, qui trouvent toute leur place dans votre pièce, Julien Gosselin, mais qui trouvent aussi toute leur place dans l'époque, sachant que nous sommes dominés par les écrans, sachant que nous vivons dans une profusion d'images. Comment extraire les vôtres de ce flux permanent ?
Je suis pas sûr de les extraire. Pour tout dire, je me rends compte que je procède d'une manière souvent qui est une mise en tension continue de deux objets, souvent de deux dispositifs à l'intérieur des spectacles que je fais, mais d'ailleurs tous les spectacles, qui sont généralement la profusion et finalement une vision pure de l'époque où je m'y plonge absolument, et une vision de une proposition de presque de négation de cette époque-là. Généralement, le spectacle se termine par un monologue extrêmement long, d'une grande pureté, tenu par un acteur magnifique qui s'appelle Frédéric Ledgens. Et ce moment vaut parce que avant, il y a 7 ou 8 heures d'image. Quand on arrive à un moment à la nudité de la parole, quand on arrive à la proposition que ne reste que les corps ou ne reste que les noms, comme dit Don DeLillo, je pense qu'il faut avoir été baigné de manière parfois brutale, à l'intérieur de l'époque, pour pouvoir penser cette chose-là et l'entendre et l'apercevoir. Donc, j'ai pas l'impression, si vous voulez, en utilisant l'image, je la critique, mais je ne l'utilise sans ironie. Et je fais pas une monstration idéologique de ces images-là. Je m'y plonge pleinement.
L'image peut-elle remplacer le langage ? Jean-Luc Godard, le cinéaste qui dit adieu au langage.
Le langage n'est pas fait, il est fait pour discuter, il n'est pas fait pour affirmer. Les trois quarts des gens s'en servent pour affirmer. La vraie science n'est pas faite pour discuter, n'est pas faite pour affirmer, trouver une formule. Il y a quelque chose de sympa chez les scientifiques, c'est dès qu'il y en a un qui a trouvé une formule, il y en a un autre qui essaye de trouver une autre formule, ou trouver que la formule est incomplète. Et puis maintenant c'est plus devenu... pour affirmer. Alors, c'est une affirmation plus une autre. Il n'y a plus aucune discussion. Est-ce que j'aime plus ? Et du reste, les images ne servent plus à rien parce qu'elles n'affirment rien, les images. Elles servent à discuter, ou elles sont elles-mêmes discussion.
Alors, vous avez appris à parler le Don DeLillo, Julien Gosselin. Vous avez aussi appris à parler le Godard. À quoi sert le langage et à quoi servent les images face au langage ?
Il se trouve que je connaissais mal Godard avant de travailler sur ce projet. Je peux pas dire non plus que je le connaisse parfaitement, mais je m'y suis intéressé. Et je dois dire que ça a été un choc absolu. Je me suis rendu compte qu'on vivait aujourd'hui, aujourd'hui plutôt vivait un des artistes peut-être les plus importants qu'on n'ait pas connu depuis des décennies voire des siècles. C'est un génie, c'est un visionnaire. Et ce qu'il dit sur le pouvoir des images ou le pouvoir de la langue, j'ai envie de dire de la même manière que Don DeLillo, je ne le décrypte pas intégralement, et le décrypte-t-il lui-même, je suis pas sûr. C'est ce qu'il vient de dire d'ailleurs, il ne sert à rien de proposer des affirmations absolues, il sert juste à poser des questions. Moi je crois en tout cas que une des forces peut-être du théâtre, mais je crois que aussi du cinéma de Godard, c'est de questionner le langage. C'est que ce langage qui est aujourd'hui absolu, omniprésent, et je le dis avec autant de facilité que je parle tout le temps, j'écoute la radio sans arrêt, j'entends, on parle, on discute, on dialogue, et que cette chose-là, que la puissance du langage, au fond, est magnifiée, obsédante aujourd'hui, en même temps qu'elle se désagrège. S'il y a bien une question peut-être à poser aujourd'hui, c'est effectivement cette question du langage.
Et dans Mao 2 se pose aussi celle de la littérature, qui ne va pas sans le langage. Cette pièce montre comment les terroristes ont détrôné les romanciers dans la production de fiction. On en écoute un extrait.
Il y a un curieux nœud qui lie les romanciers aux terroristes. En Occident, nous devenons des effigies célèbres à mesure que les livres, nos livres, perdent le pouvoir de façonner et d'agir. Est-ce que vous demandez à vos écrivains ce qu'ils en pensent ? Il y a des années, moi je pensais que l'écrivain pouvait modifier la vie intérieure de la culture. Aujourd'hui, les fabricants de bombes et les tueurs se sont emparés de ce territoire. Ils effectuent des raids contre la conscience humaine, exactement ce que faisaient les écrivains avant qu'ils ne soient tous annexés.
Continuez, j'aime votre colère.
Mais vous savez tout ça, c'est pourquoi vous parcourez des milliers de kilomètres pour photographier les écrivains. Parce que nous cédons à la terreur, aux nouvelles de la terreur, chez dans les radios, aux caméras et aux magnétophones. Aux radios, aux bombes cachées dans les radios.
Fermez la bouche.
Est-ce que vous pensez qu'on a le droit de la rouvrir ?
Oui.
La bouche. Oui. Là, Don DeLillo, est-ce qu'il signe pour vous l'acte de décès de la littérature ? Est-ce qu'il nous met simplement en garde ? Est-ce qu'il nous dit que sa foi à lui est ébranlée ?
Non, je crois pas qu'il signe l'acte de décès de la littérature. Je ne crois pas d'ailleurs non plus qu'il nous mette en garde. Je pense qu'il effectue un constat qui est absolument sans équivoque et qui est complètement juste. L'idée que la production de fiction des écrivains est aujourd'hui moins puissante que la production de fiction des terroristes. Cette chose-là, je ne vois pas qui peut nier cette chose-là aujourd'hui. L'idée que l'écrivain est aujourd'hui, il dit ça aussi à un autre moment dans le texte, est inclus dans la société, qu'il n'est plus un élément exclu de la société. L'artiste, d'ailleurs, on pourrait dire de manière générale, le seul être, la seule personnalité restant hors de la société est celle du terroriste. Qui ne peut pas être inclus, qui ne peut pas être ingéré par la société. Cette chose-là, elle est absolument vraie. Je crois pas que Don DeLillo baisse les bras par rapport à ça. Je crois justement qu'en proposant des pensées comme celle-ci, il signe un acte de révolte de la littérature, une proposition. Mais je trouve cette vision d'une justesse absolue.
Et vous, en l'adaptant ou en réinventant, vous signez aussi un acte de révolte ?
Bon, je sais pas. Moi, j'ai toujours l'impression de mener une forme. C'est ce qui est complètement absurde. Hein. J'ai toujours l'impression de mener une forme de petit combat personnel, de petite révolte. Oui, oui, constamment. C'est absurde parce que pour le coup, ce sont des actes esthétiques, artistiques, qui peut-être non que je dis pas qu'ils ont aucune valeur, mais qui ne changent rien. Mais oui, j'ai la sensation que proposer aujourd'hui un langage, des visions de ces gens-là et les proposer aux autres, est une forme de résistance et avec tous les guillemets.
Si vous pouviez lécher mon cœur, c'est le nom que vous avez donné à votre collectif. C'était aussi ce que vous disait votre prof à l'école du théâtre du Nord, qui vous répétait cette phrase entendue dans Shoah de Claude Lanzmann. Si vous pouviez lécher mon cœur, vous mourriez empoisonné. Et le vôtre, Julien Gosselin, au fond, il bat pourquoi ?
Ah, quand même la littérature. Pour les gens, pour mes amis avec qui je travaille, pour pour beaucoup de choses. Peut-être aussi pour le théâtre, même si je pense pas que pour l'art, disons de manière générale, peut-être pour la possibilité de transformation de la vie. Oui, ça, mon cœur bat pour ça.
Vous êtes déjà en train de travailler sur la suite, en train de monter L'Homme qui tombe, de Don DeLillo, toujours. En fait, pour la petite histoire, il faut la raconter. Apparemment, vous vouliez l'ajouter aux trois que vous avez déjà montés et que vous mettez en scène aujourd'hui. Mais quelqu'un a dû vous dire, sois raisonnable, ça ferait un peu long. Là, c'est déjà 10 heures, avec deux entractes entre 3 heures, 3 heures, 3 heures. Donc, vous avez choisi de la monter ailleurs, avec les acteurs du Tunnel Group d'Ivo Van Hoff à Amsterdam. Quand vous avez quelque chose en tête, en fait, vous ne lâchez rien. Vous allez toujours au bout de vos idées. Sinon, c'est quoi? Ça tourne à l'obsession?
Bah non, parce que si j'allais au bout de mes idées, j'aurais fait 15 heures sur ce spectacle-là et tout le monde se serait enfui. Mais j'ai
il y en a bien qui restent 10 heures, vous remarquez déjà.
Oui, oui, il y a des gens qui voient tout sans sortir.
C'est le samedi ou le dimanche en ce moment, aux ateliers
Bertie. Mais les gens peuvent sortir quand ils veulent. Ce que je veux dire, c'est que j'ai croisé des gens qui ne sont pas sortis une seule fois de la salle, ce qui est un exploit même physiologique. Oui, je le monte là, L'Homme qui tombe, au Tunnel Group Amsterdam, mais il y a une autre raison aussi, c'est que c'est un texte et pour le coup éminemment américain, qui évoque le 11 septembre donc, et je voulais aussi, je trouve que les acteurs d'Ivo Van Hoff au Tunnel Group Amsterdam, ça doit être une question de langage, de langue anglo-saxonne aussi, ont quelque chose qui a à voir avec, même dans leur code de jeu, dans leur façon de jouer, quelque chose de l'ordre de ils sont plus américains que nous les Français, disons. Et je sentais que l'incarnation de ces personnages-là très américains pouvait être intéressante avec ces acteurs-là. Donc c'est aussi pour ça que je leur ai proposé.
Et ce texte-là, il tourne autour de quoi?
Il raconte, c'est magnifique, hein, il raconte un couple, un homme qui subit, qui est dans une des tours du World Trade Center le 11 septembre 2001 et qui rentre chez son ex-femme pour se couvert de poussière. Et qui a vu tous ses amis mourir. C'est au fond l'histoire de la reconstruction d'un couple qui ne se reconstruira jamais parce qu'il est déjà mort. C'est cette histoire de reconstruction au milieu de souvenirs et de douleurs qui reviennent sans arrêt de ces attentats. Et c'est là la force de Don DeLillo. Rapidement, c'est il arrive à décrire des phénomènes immenses, mondiaux, à travers des situations extrêmement minimalistes, à travers le contact de ces êtres, de ces peaux-là. Et on sent la douleur, on sent les souvenirs, on sent l'incapacité à agir. Ça, c'est très beau.
Et c'est un théâtre ultra contemporain que vous mettez en scène aujourd'hui, une sorte de métaphore directe à travers ces textes, ces romans de Don DeLillo. Vous restez avec nous. Julien Gosselin, pour la deuxième partie de l'émission, nous rejoindra le philosophe Frédéric Vamps. On va revenir ensemble sur les grands mouvements de ce monde et voir quelles conséquences ça peut avoir sur nous tous aujourd'hui. À tout de suite.